dans l'actualité des idées aujourd'hui, quelle confiance pour la finance avec notre invité André Lévy-Lang, ancien président de Paribas, banque d'affaires qui a fusionné depuis avec la BNP, professeur émérite à Paris Dauphine, fondateur de l'Institut Louis Bachelier, qui contribue à alimenter la recherche en économie et en finance. Aujourd'hui, André Lévy-Lang publie « La révolution de la finance, acte 2 » chez Odile Jacob, où il se demande si la révolution numérique entérine la défaite de la finance, si les GAFAM peuvent remplacer demain les acteurs traditionnels des marchés. Bonjour André Lévy-Lang.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Qu'appelez-vous l'acte 2 de la révolution de la finance? Juste expliquez-nous ce titre.
Oui,
l'acte... Il faut un acte 1 pour un acte 2.
Il y a un acte 1, en effet. Mmh. L'acte 1, pour moi, ce sont les 36 années entre août 1971, lorsque Nixon décroche le dollar de l'or, et disons août de 2007, qui est le début vraiment de la crise de 2008. Donc ça a été des années de prospérité, de développement massif des liquidités, de prospérité de la finance en général, avec des hauts et des bas quand même, et qui se sont mal terminés, qui ont fini par la crise. Donc c'était l'acte 1. Et je considère que nous vivons un acte 2 qui a commencé
après
en 2007-2008,
en fait.
Voilà, avec deux événements. Indépendant mais quasi simultané. L'un, bien sûr, c'est la crise financière. Et l'autre, ça a été le lancement de l'iPhone, qui a été annoncé en 2007 et livré en 2008. Donc, c'est un acte 2, et j'appelle ça une révolution, parce que, effectivement, il y a un choc entre deux univers de confiance. Un univers de confiance qui est celui de la finance, de la banque et de l'assurance, qui est de la confiance basée sur des réglementations. La confiance bien publique en matière d'argent et de finances est sévèrement garantie aujourd'hui, réglementée depuis la crise. C'est l'univers financier. En face, l'univers de la confiance que j'appelle celui des smartphones, des réseaux sociaux, qui est d'une confiance quasi aveugle, que chacun fait à son smartphone, en lui confiant sa vie, en lui confiant ses sentiments, et en alimentant tout le système de publicité qui fonctionne autour des GAFA. Voilà.
Voilà, c'est la rencontre de ces deux mondes que vous racontez et que vous analysez dans cet essai, La révolution de la finance, acte 2, ce choc de confiance, deux confiances de nature différente. On va y revenir, juste pour préciser que quand vous parlez de réseaux sociaux, André Lévy-Lang, vous englobez les plateformes et les applications du numérique, les géants, à la fois américains, les GAFAM et chinois, les BATX.
Et aussi les fintech, et aussi les start-up.
Fintech étant la contraction de finance et de technologie.
Voilà.
Ça parle de ces entreprises, de ces start-up qui, aujourd'hui, bousculent un peu le secteur de la finance, en y incluant, en y englobant toutes les questions du numérique. Vous présentez à mes côtés Aurélie Marcirot. Bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef du nouveau magazine littéraire qui interroge justement dans son prochain numéro, son numéro de novembre en kiosque cette semaine, notre confiance. En qui croit-on encore? C'est un thème qui sera aussi à la une des rencontres littéraires de Pau qui auront lieu le week-end du 22 novembre. Intellectuel, journaliste, prêtre, homme politique, mais encore banquier. Quelle cote de confiance, Aurélie? Pourquoi cette question aujourd'hui?
Alors c'est vrai que nous avons décidé de consacrer notre dossier à cette question de la confiance parce qu'il nous semblait que nous étions dans un moment de défiance extrêmement forte et généralisée. Et l'incendie de l'usine Lubrizol fin septembre à Rouen et la suspicion totale autour de toute parole institutionnelle mais également scientifique a hélas résonné totalement avec notre enquête. Alors quels sont les résultats de ce sondage Harris Interactive? Eh bien ce sont assez logiquement les professions dans l'aide, dans la proximité qui sont en haut du tableau. Les pompiers, 91% des Français leur font confiance, les infirmiers, les militaires et les scientifiques, 78%. On notera que seuls les enseignants, avec 74% de cote de confiance, voient leur cote monter depuis 2013. Alors en milieu de tableau, les intellectuels, ils n'emportent la confiance que de 55% des Français et surtout, ils sont très peu connus et très peu identifiés. Donc cela montre très bien un manque de référence et de pensée vers qui se tourner. Mais alors les chiffres les plus inquiétants sont totalement dans notre sujet du jour. Les économistes, eh bien les Français ne sont que 44% à leur faire confiance, les banquiers 29%, les syndicalistes patronaux 22% et puis bon dernier avec 21%, les politiques nationaux, à savoir les ministres et les élus.
Voilà, les journalistes sont donc entre les intellectuels et les banquiers avec une cote de confiance à 37% selon ce sondage que vous avez réalisé, à savoir que notre cote globale dans ce studio n'est pas très élevée et qu'il va falloir nous tenter au moins d'infirmer cette tendance jusqu'à 13h30, André Lévy-Lang.
Oui.
La question de la confiance, elle est essentielle.
Donc... Je cite dans mon livre un livre de Cahuc, de Pierre Cahuc sur le monde de la défiance et les dégâts que provoque la défiance, notamment en France, dans tous les domaines. Dans le domaine économique, mais dans tous les domaines. Alors cette défiance, qui, c'est comme vous le dites, hein, l'aviez dit, c'est accéléré, enfin, c'est aggravé aujourd'hui. Et qui porte sur tout ce qui peut être qualifié d'élite. Élite est devenue une insulte. Pratiquement.
La société de la défiance, vous avez interrogé à ce sujet d'ailleurs Yann Algan.
Oui, qui était le co-auteur, hein,
absolument.
Co-auteur de ce livre.
Sur cette question.
On a un entretien effectivement sur son dernier livre qu'il a co-écrit aux éditions du Sol sur les origines du populisme. Et il explique ce qui travaille nos sociétés, cette défiance qui est partagée par l'ensemble des électeurs des forces anti-système de gauche comme de droite, est liée d'abord à ce facteur économique. Et le décrochage, dit-il, est très net après 2008 parce que les experts, les gouvernements, non seulement n'ont pas réussi à prévenir la crise, mais n'ont pas trouvé de solution pendant 10 ans. L'autre facteur qui alimente, qui augmente la défiance, dit-il, ce sont les risques liés à la mondialisation, cette incertitude, l'ubérisation de nos sociétés. Alors aujourd'hui, dit Yann Algan, la confiance a remplacé la foi. On a toujours vécu dans des sociétés à risque, mais sauf qu'auparavant, ils étaient liés à des facteurs naturel, extérieur, alors qu'aujourd'hui les risques, ce qui nous menace, est lié à l'activité humaine. Par exemple, on nous alerte en ce moment sur une crise imminente, une crise économique, et on a l'impression que rien ne peut être fait, que tout cela est inéluctable. D'où le peu de confiance.
Une nouvelle crise à venir, André Lévy-Lang, avant de revenir sur celle de 2008. C'est quelque chose qu'on entend souvent, le pire est encore à venir.
Oui, vous savez, je suis fondamentalement optimiste, mais optimiste dans ce sens de le pessimisme rend prudent, mais l'optimisme rend actif. Je crois qu'il faut voir que si nous avons des atouts dans tous les domaines, notamment économiques, que la France est bien placée, on entend souvent... je connais une radio qui a comme slogan « La France a tout pour réussir », et je crois que c'est vrai, je crois que c'est vrai. Mais pour revenir sur la défiance, il y a un type de défiance qui, en revanche, me convient. C'est celui qui commence à s'appliquer aux réseaux sociaux, justement. Parce que je parlais de la confiance aveugle que l'on fait à son smartphone, et puis les gens en général découvrent que tout ce système des réseaux sociaux, en citant en tout premier lieu Facebook, qui est le principal coupable, est aussi une source d'applications très nocives. Je veux dire, on entend des situations d'enfants persécutés dans les écoles, qui se suicident. On a les fausses nouvelles, l'infox, comme on dit. On se rend compte que ça, c'est détourné.
Là, c'est pas la technologie qui est en cause, c'est la manière dont on l'utilise.
Oui,
on pourrait dire un peu pareil du secteur financier et des outils.
Mais je le dis, j'en suis entièrement d'accord. Mais la différence fondamentale, c'est que le secteur financier est fortement réglementé. Les réseaux sociaux ne le sont pas. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Il y a l'auto-censure, l'auto-contrôle qu'affichent des gens comme Facebook ou Google. Je veux bien, mais si on garde à l'esprit le fait que leur modèle économique est basé avant tout sur l'utilisation des données, c'est contre leur propre intérêt que de les filtrer.
Alors, juste une question que vous soulevez, André Lévy-Lang, puisque vous repartez de la crise de 2008, c'est point de départ de votre réflexion, de la faillite de Lehman Brothers qui a entraîné avec elle la faillite de ce qui restait de confiance dans les banques, une confiance dans les institutions qui a été durablement ébranlée. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, et beaucoup en doute, tout a été fait pour restaurer cette confiance, c'est-à-dire pour réguler un secteur qui a largement démontré aussi sa capacité à dériver?
Oui, ça a été largement fait, ça a été largement fait. Et dans une certaine mesure, un peu trop, un simple chiffre. Aujourd'hui, dans la plupart des banques, et j'en connais quelques-unes de près, environ 1 personne sur 10, 1 salarié sur 10, est utilisé uniquement pour respecter les règles, la conformité, la lutte contre le blanchiment, le respect des règlements. Donc il y a un énorme effort qui a été fait. Tout ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelle crise financière. Il y aura sûrement un jour des crises financières comme il y en a toujours eu, différentes des précédentes. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la crise financière aura des conséquences moins dramatiques, moins profondes sur l'économie que la précédente. De même que la crise de 2008 a eu des conséquences sérieuses et graves, mais n'a rien à voir avec celle des années 29, du siècle dernier. Autrement dit, l'ambition des régulateurs de la finance n'est pas de supprimer complètement les crises, ce n'est possible, parce qu'il y a toujours des phénomènes de bulles qui se produisent, etc. C'est de faire en sorte que lorsqu'il y a une crise, elle soit maîtrisée le plus vite possible, avec le moins de conséquences possibles sur l'économie. Ça a été le cas en 2008, on peut discuter de ce qui a été fait depuis, disons. Mais au fond, il y a eu une crise réelle, importante, mais les conséquences n'ont pas été aussi graves que celles de la grande précédente crise de 1929. Et aujourd'hui, voilà, en gros, ma réponse.
Mais parce que c'est, et vous revenez sur cette histoire, l'histoire de ce secteur, c'est dans l'après-crise de 1929 que les piliers sur lesquels cette confiance avant 2008 reposait ont été bâtis, ont été construits, que cette régulation du secteur s'est aussi mise en place. Et pourtant, ça n'a pas empêché la crise de 2008,
Exactement.
Vous l'évoquez.
Exactement.
Qu'est-ce qui a été bâti et rebâti depuis pour tenter de rétablir cette confiance? Qu'est-ce qui a été fait? Quelles ont été les mesures importantes pour vous?
Les mesures techniques importantes, si vous voulez, ont été de dire une banque, c'est la confiance dans une banque repose sur le fait qu'elle pourra vous rendre votre argent lorsque vous avez déposé de l'argent, qu'elle pourra supporter des risques sans faire faillite. Première condition, avoir des capitaux, des fonds propres, des réserves. Bon, ça a été multiplié par 3 ou par 4 aujourd'hui. L'ensemble du système bancaire mondial a 3 ou 4 fois plus de réserves qu'avant 2008. C'est la première condition. La deuxième condition, on a découvert en 2008 qu'il y a quelque chose qui s'appelle la liquidité, le fait qu'on peut répondre à une demande de remboursement à tout moment. Et le risque de liquidité, c'est-à-dire le risque du blocage du système, était largement sous-estimé et sous-réglementé. Aujourd'hui, les banques doivent démontrer qu'elles peuvent durer si le marché est secoué. Mon premier emploi dans la banque a été à la compagnie bancaire, qui est une filiale de Paribas, dans laquelle mon patron m'avait dit à l'époque, écoutez, on a une règle très simple. Si les marchés se bloquent, on doit pouvoir vivre 6 mois sans emprunter. On était les seuls à l'époque avec cette règle-là. C'est ce type de règle qui crée la sécurité. Parce que la crise de 2008, c'est avant tout une crise de liquidité. Lehman ne pouvait pas honorer ses engagements et a fait banqueroute sur un week-end.
Vous quittez Paribas en quelle année?
En 99, en 2000.
D'accord. La crise de 2008, vous l'aviez vu venir?
Pas vraiment, mais je m'étais rendu compte du fait que si Paribas ne se mariait pas avec une grande banque de dépôt, nous ne pouvions pas tenir le coup dans une crise.
Ça a été le cas avec la BNP.
Voilà.
Après,
en l'occurrence,
d'une banque d'affaires et d'une banque de dépôt.
Voilà. Et on n'aurait pas tenu le coup en 2008 si on n'avait pas fait ça.
Aurélie Marciro, à la question « Peut-on faire confiance aux banquiers après la crise de 2008 ?» question que vous avez posée au prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz, auteur en ce moment, le livre vient de paraître en France aux éditions « Les liens qui libèrent » de « Peuple, pouvoir et profit ». Que vous a-t-il répondu?
Alors en fait, c'est à Jacques Bronstein qu'il a répondu parce qu'il l'a rencontré pour
C'était
nous.
C'était un vous collectif voilà. De l'équipe du Nouveau Magazine.
Et alors à cette question, il a répondu par une anecdote. Il dit « On demande à des personnes de jeter un dé, si le 6 sort, tout le monde a droit à une récompense ». Mais attention, ils pensent être les seuls à savoir quel chiffre est réellement sorti. Eh bien, selon cette anecdote, il explique que tout le monde triche un peu, mais qu'on s'est aperçu que les banquiers soumis à ce test trichent un petit peu plus que les autres. Alors, plus sérieusement, il explique que les bons banquiers cherchent à favoriser la création de richesses, mais la richesse nationale, alors que les mauvais banquiers cherchent à exploiter le pouvoir de marché pour s'accaparer une part croissante de la richesse qui serait créé de toute façon. Le problème, résume-t-il, est que les banquiers sont uniquement jugés à ce qu'ils rapportent à leur banque, sans se soucier de savoir si cet argent est le résultat d'un accroissement de la richesse réelle ou d'activités nocives pour la population. Voilà pour la différence entre un bon et un mauvais banquier.
André Lévy-Lang.
On peut dire la même chose de beaucoup de professions, je crois. Il y a des bons et des mauvais journalistes. Il y a des bons et des mauvais dans tous les domaines. Je crois que les banques et les banquiers ont une responsabilité particulière. Parce qu'en effet, ils sont dépositaires d'une confiance du public. Cette confiance, elle est effectivement très réglementée, mais tous les règlements ne peuvent pas remplacer l'éthique et le fait que l'on respecte des règles qu'on s'impose à soi-même. Bon, et c'est évident que tout le monde n'a pas cette caractéristique, quelle que soit la profession. Quelle que soit la profession, c'est plus grave pour la finance parce que ça peut avoir des conséquences. Plus grave, c'est certain. Mais je suis tout à fait d'accord.
C'est une des questions que soulève votre livre, André Lévy-Lang, La révolution de la finance, acte 2, celle de l'importance de la confiance aujourd'hui. Yann Algan se demande en quoi la confiance commande notre représentation du monde. Appliquée à l'argent, qu'est-ce que vous répondriez? Pourquoi sans confiance, l'argent n'est plus un moyen d'échange possible?
L'argent par nature, repose sur la confiance pour beaucoup de raisons. Bon, l'argent comme moyen d'échange, vous voulez être sûr que l'argent que vous utilisez, que vous détenez, pourra être accepté pour acheter des biens. Bon, deuxièmement, l'argent comme réserve de valeur, vous voulez être sûr que vos économies seront encore utilisables dans de bonnes conditions, sans avoir perdu de valeur plus tard. Donc, pour toutes ces raisons, l'argent est par nature un bien de confiance, mais de confiance publique. C'est-à-dire que c'est un bien public qui repose sur la confiance de l'ensemble des utilisateurs. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, en essayant d'être un peu concret en termes d'histoire, parce que c'est bourré d'anecdotes, l'histoire de l'argent. Mmh. Donc, je crois que c'est fondamental. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des confiances de niveaux différents. Vous devez certainement voir ça dans vos études. Je me tourne vers la journaliste,
vers l'auteur
de la confiance. Il y a des degrés différents de confiance. Tout le monde fait confiance aux banques sur Internet dans lesquelles vous pouvez utiliser votre téléphone pour payer, pour virer de l'argent facilement, parce que ce sont des limites de montant basses. Typiquement, vous avez un dépôt limité que vous avez fait auprès d'une entreprise comme Lydia ou Revolut, qui sont des entreprises très populaires chez les étudiants aujourd'hui, qui permettent de virer de l'argent. Bon. Mais si vous devez prendre une décision financière qui engage votre avenir, par exemple, acheter un appartement et emprunter, par exemple, décider d'une assurance d'essai pour garantir votre famille, bon, une décision lourde. L'expérience montre que la confiance devient un élément fondamental et qu'à ce moment-là, elle repose à la fois sur ce que vous savez de l'univers financier. Vous savez qu'en France, les banques n'ont jamais fait faillite depuis très 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 longtemps. Vous savez que les assurances sont solides. Donc vous avez cet élément de confiance. Et deuxièmement, il y a un élément de confiance humaine. Vous voulez parler à quelqu'un et avoir ce sentiment indéfinissable, non mesurable, de la confiance. En vous disant, la personne que j'ai en face de moi voit mon intérêt et pas le sien. C'est ça, je crois, la vraie différence. Et je crois qu'une des conclusions de mon livre, c'est de dire, si les banques ne jouent pas sur cet argument-là, elles auront de grosses difficultés à survivre, parce que c'est la seule arme qu'elles ont à terme.
Mais vous revenez sur la différence de nature entre ces deux confiances, hein, celle presque de l'ancien monde, du secteur financier, la confiance sur laquelle ce secteur-là reposait auparavant, et celle qui nourrit, alimente la nouvelle économie, comme on dit aujourd'hui. Cette nouvelle économie qui n'a pas de réglementation stricte, qui est un secteur qui s'auto-régule avec un modèle économique qui est fondé sur l'utilisation notamment de nos données, et vous soulignez bien l'intérêt commercial de ces plateformes devant sur la question de la confidentialité de nos données, deux intérêts qui se heurtent et se contredisent parfois. Si on reprend Uber, Airbnb, TripAdvisor, Booking, toutes ces plateformes, ces applications, comment ont-elles bâti la confiance? Quelle différence?
Il y a d'abord une réponse économique, un peu technique, qui est l'effet réseau, si vous voulez. Le fait que dans un réseau, chaque nouvel adhérent valorise le réseau. Plus il y a de personnes qui participent à un réseau, comme Facebook par exemple, ou Airbnb ou un autre, plus ça a de la valeur pour les autres, parce que vous allez avoir plus d'offres, plus de contacts. Donc c'est un effet qu'on appelle, il y a des rendements croissants, si vous voulez, qui expliquent cette situation. Bon. La bonne nouvelle, à mes yeux, c'est qu'il y a une prise de conscience du fait que ces réseaux peuvent être mal utilisés ou détournés. Je prends l'exemple d'Uber. Dans le cas d'Uber, il y a eu des abus manifestes dans notre système qui font que le système a été ébranlé. Bon. L'autre bonne nouvelle, c'est que on commence à parler de protection des données. L'Union européenne et la France ont pris des mesures exemplaires.
Avec la RGPD, ce règlement qui a été adopté par l'Union européenne.
Qui sont compliqués à appliquer, mais qui deviennent aussi... deuxièmement, il y a un mouvement aux États-Unis très sérieux pour mettre en question les monopoles de fait des GAFA. Pour considérer que ce sont des monopoles qui ont deux conséquences fâcheuses. L'une, détruire la concurrence en éliminant des concurrents potentiels. Et deuxièmement, permettre... des abus en matière d'utilisation des données. Les abus que sont, je répète, les fausses nouvelles, la manipulation, le blanchiment, enfin bref, qui sont de réels abus. Donc il y a la bonne nouvelle à mes yeux, c'est qu'il y a une évolution des esprits. et de bonne partie du monde politique, notamment aux États-Unis. Voilà, en fait, ce qui fait que les choses peuvent être moins mal qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui.
Oui, quand la défiance a commencé à arriver sur ces réseaux, ou en tout cas sur ces plateformes, vous montrez qu'on a commencé à introduire un autre facteur qui est la notation par les clients pour faire valider le système. Hein, c'est dans les tentatives d'autorégulation. Ce modèle, à grande échelle, et notamment celui de l'exploitation de nos données dans un environnement non réglementé, est-ce qu'il est viable à vos yeux aujourd'hui ?
Oui, on peut parler des applications, des systèmes genre TripAdvisor, c'est ça, où les clients jugent en quelque sorte, où se jugent les uns les autres.
Est-ce que vous pensez que ça va devenir le modèle dominant ? Est-ce que c'est la finance qui va peut-être s'en inspirer aujourd'hui dans ses manières de faire ? Est-ce que c'est ça aussi qui est en jeu dans cet acte 2 de la révolution de la finance ?
Le seul point commun entre ce modèle et celui de la finance, c'est ce que j'appelle la réputation. Parce que la dimension réputation joue un rôle essentiel. Une entreprise financière a une réputation. Et cette réputation, elle est faite d'abord par la qualité du service, bien sûr, mais aussi par l'expérience individuelle que les gens en ont. Donc ça joue beaucoup. Donc s'il s'agit de dire que la réputation est un élément important de la confiance, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que des entreprises de l'Internet reposent sur ce type de méthode. Et pour les entreprises financières, l'équivalent, c'est la réputation.
Invité jusqu'à 13h30, André Lévy-Glang, ancien banquier, aujourd'hui auteur de La Révolution de la Finance, acte 2, qui paraît chez Odile Jacob.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et à mes côtés également, la journaliste Aurélie Marciro, rédactrice en chef du nouveau magazine littéraire, dont le nouveau numéro, celui de novembre, en kiosque cette semaine, titre fait sa une, sa couverture sur la confiance. En qui croit-on encore ? Comment rétablir la confiance et comment évaluer nos cotes de confiance ? On évoquait l'importance de la confiance dans la monnaie aujourd'hui, dans l'argent. Celle qui fait beaucoup parler d'elle, c'est Libra, la nouvelle monnaie virtuelle que Facebook vient de créer pour faciliter les paiements en ligne et que les Européens veulent interdire. Est-ce qu'on va vers un système bancaire parallèle ? Je vous propose d'abord d'écouter les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui met en garde depuis plusieurs semaines sur ce Libra, danger selon lui pour l'économie mondiale.
Alors que Facebook crée un instrument de transaction, pourquoi pas ? En revanche, que ça devienne une monnaie souveraine, il ne peut pas en être question. Ça ne peut pas et ça ne doit pas devenir une monnaie souveraine. Avec tous les attributs de la monnaie, c'est-à-dire la capacité à émettre un titre souverain, la capacité à être une réserve, comme le sont les banques centrales aujourd'hui, prêteurs en dernier ressort, tout ça n'est pas envisageable. Parce que l'attribut de la souveraineté des États doit rester aux mains des États et pas des entreprises privées qui répondent à des intérêts privés.
Pourquoi faudrait-il, après tout, que les États restent les seuls à pouvoir battre monnaie, André Lévy-Lang ? Quel risque avoir cette prérogative passée aux mains d'entreprises privées ?
Parce que la monnaie est un bien public. La monnaie est un bien public, c'est-à-dire un bien dont tout le monde bénéficie. Le fait que l'existence de la monnaie est un élément fondamental pour le fonctionnement d'une économie, d'une société. La monnaie, classiquement, instrument d'échange et de conservation de valeur. Bon, un bien public, pas un bien privé. Un bien public, ça se protège. L'air pur est un bien public. L'eau pur est un bien public. C'est protégé. On n'a pas le droit de polluer. On n'a pas le droit de les gâcher. Donc, c'est ça la raison fondamentale. Or, le projet Libra est un projet privé, dans un but privé, qui est tout bonnement de relancer la croissance de Facebook. Facebook ne vit que de la publicité. Le produit de Facebook, c'est vous. C'est vous et moi. Nous sommes le produit de Facebook en alimentant son réseau. Bon. La publicité de Facebook sature. Le grand marché à venir de Facebook, c'est l'Asie, hors Chine. La Chine, c'est un marché fermé, contrôlé par les géants chinois. Mais par exemple, en Inde, il y a plus d'un milliard d'Indiens qui découvrent le smartphone. Et Facebook veut avoir accès à ces clients-là. Or, les transactions, c'est l'instrument idéal pour les réseaux. Parce que j'ai entendu quelqu'un de chez Google disant « nous aimons les produits brosses à dents ». C'est-à-dire, une brosse à dents, on s'en sert tous les jours. En principe, plusieurs fois par jour. Bon, on aime les produits qui interviennent plusieurs fois par jour. Ben, ça fait beaucoup de données. Alors, exemple, une transaction, c'est idéal. Vous payez plusieurs fois par jour, par semaine. Donc, pour les gérants de réseau, c'est idéal, les transactions. Donc, l'idée de Facebook est très simple. Je vais capturer le marché indien et le marché de l'Asie hors Chine en proposant un instrument de paiement que je destine délibérément à ces pauvres ouvriers du Bangladesh qui sont exploités à Abu Dhabi et qui payent très cher pour envoyer de l'argent à leur famille. Vous voyez, donc, aujourd'hui, c'est vrai d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 600 milliards de dollars par an de transferts d'argent entre pays, pour l'essentiel des transferts de travailleurs émigrés d'Asie au Moyen-Orient et en Europe.
Et que ces transactions mériteraient peut-être d'être facilitées.
Elles sont chères.
Oui, elles sont chères, elles sont très chères.
Voilà. Bah mais oui. Libra est une fausse solution, parce que vous ne pouvez pas acheter du riz au Bangladesh avec du Libra.
Aurélie Marcello.
La philosophe Michela Marzano, qui est interrogée dans le magazine, a écrit dans l'éloge de la confiance que la crédibilité de l'État et de sa monnaie vont de pair. Donc que reste-t-il de l'État si on a une monnaie parallèle? Est-ce que ce serait la fin de l'État pour vous?
Ce ne serait pas la fin de l'État, ce serait la fin de la société. C'est bien plus important. Je crois que c'est ça la vraie question. Écoutez, revenons au béaba de la monnaie, si vous voulez. La monnaie a été inventée pour faciliter, pour remplacer le troc. Elle a été inventée pour permettre l'épargne. Elle a été inventée pour que la société fonctionne. Et la monnaie a été inventée par l'humanité pour mieux vivre, fondamentalement. Bon, elle ne peut exister que si elle est protégée, comme tous les biens publics, par les États. C'est tout simple. Elle ne peut pas exister au service de M. Mark Zuckerberg.
C'est un changement d'échelle, en tout cas. Je ne sais pas si c'est la fin de la société, c'est probablement celle de la souveraineté des États, mais c'est aussi un changement d'échelle pour cette société.
C'est une question fondamentale. Vous savez que les banques centrales se posent la question d'utiliser elles-mêmes le système des monnaies virtuelles pour faciliter leurs échanges. Et c'est possible que dans 10 ans ou 20 ans, on utilise des monnaies virtuelles, mais gérées par les banques centrales.
Voilà. Donc c'est aussi là, à travers cet exemple-là, on voit cette révolution, cet acte 2 de la révolution de la finance, comment
Absolument.
Il est en train de se jouer. On voit aussi comment le vieux secteur de la finance est en train de s'inspirer pour évoluer et bousculer en son sein par ces nouvelles technologies. Vous parliez des banques centrales, whatever it takes. On se souvient de cette promesse en 2012 de Mario Draghi, qui a su préserver l'union monétaire, mais à quel prix? Il a été surnommé le sauveur de l'euro. Il quitte cette semaine la tête de la Banque Centrale Européenne. Il va laisser son fauteuil à l'ex-directrice générale du FMI, la française Christine Lagarde. Son bilan, notamment en matière de baisse des taux. Je vous redonne la parole tout de suite, André Lévillon. Je vous propose d'abord d'écouter le point de vue d'Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos.
Ce qui est sûr, c'est que Mario Draghi, il a quelque part sauvé l'euro en 2012. Donc il a un bilan positif. Au moment où il y avait une spéculation, où on misait sur la chute de l'euro, il y avait une crise des États, il a dit qu'il prendrait toutes les dispositions nécessaires, il a mis fin à cette spéculation. Il a donné une ampleur à la Banque Centrale Européenne qu'elle n'avait pas auparavant, avec des nouveaux outils, un poids politique très important. Il a acheté du temps aux États aussi pour qu'ils se remettent de la crise financière. Mais à la fin, la politique monétaire a touché ses limites. Depuis plusieurs années, en fait, tous les instruments qu'il a mis en place ne suffisaient plus à relancer l'inflation. Il y a même eu des effets pervers au taux d'intérêt négatif qu'il a mis en place, dont on se demande quelles conséquences il pourrait avoir. Donc voilà, c'est un bilan un peu très positif au début, un peu ambivalent sur la fin, et que Christine Lagarde va devoir assumer.
Voilà, c'est la question aussi de comment va notre monnaie, quelle confiance peut-on avoir en elle, comment va l'euro, André Lévy-Lang, avec ses taux bas. Est-ce que Mario Draghi a aussi fragilisé le secteur financier au lieu de seulement relancer l'économie?
C'est vraiment le problème des taux négatifs et des taux très bas, effectivement, qui, à court terme, en tous les cas, enfin, à court terme, tant que ça dure, disons plutôt, fragilise les banques et les assurances, indiscutablement. C'est vrai. Parce qu'un des éléments de la rentabilité, c'est la marge qu'il y a entre l'argent à court terme, qui sont leurs dépôts, si vous voulez, et les placements à moyen et long terme, que sont les crédits et les investissements. Bon, cette marge, elle est aujourd'hui très laminée. Donc, à un moment où les banques doivent investir massivement pour se repenser vraiment autour du smartphone, disons, autour des réseaux sociaux et de l'Internet, elles doivent investir et en même temps, leur rentabilité souffre de ce fait. Bon, c'est, je ne peux pas qu'on puisse en faire grief à Mario Draghi. Je crois que la vraie question, il l'a soulevée très clairement, et je pense que ça va être la mission de Christine Lagarde, c'est d'arriver à convaincre les Allemands, qui sont en récession aujourd'hui, qu'ils ne peuvent pas laisser la monnaie faire tout le boulot, faire tout le travail. Il faut qu'ils prennent des mesures fiscales, il faut qu'ils dépensent plus. Les autoroutes allemandes ne sont pas en bon état. Le réseau électrique pourrait être amélioré. Il y a de quoi faire des investissements importants pour améliorer la situation et relancer l'économie. Donc vraiment l'enjeu pour Christine Lagarde, qui a pour elle deux qualités importantes. Un, elle n'est pas économiste, donc on peut lui faire confiance, puisqu'apparemment les économistes sont mal vus. Et deuxièmement, c'est une femme. Elle a du bon sens, elle a de l'énergie, excusez-moi. Je ne devrais pas faire allusion à son genre. C'est très, très, très incorrect.
C'est pas que c'est incorrect, non. C'est que vous attribuez à ce genre des qualités particulières et ça se...
Je ne sais pas. J'attribue à Christine Lagarde, en tous les cas, quelles que soient les raisons, des qualités indiscutables de conviction et de clarté. Donc, j'espère qu'elle va arriver à faire évoluer les choses.
Alors, et à propos de conviction, je vous pose une dernière question dans la bouche de l'économiste François Morin, celle de la morale dans ce nouveau monde, dans cet acte 2, quelle place pour la morale au cœur des algorithmes ?
Si vous prenez une salle de marché aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un dialogue entre ordinateurs, entre algorithmes, c'est ça les joueurs aujourd'hui ? On voit pas très bien comment un ordinateur peut être très moral dans cette affaire. Quand vous avez une salle de marché où il y a plusieurs milliers de traders, c'est le cas des plus grandes banques, et que ils sont là simplement pour surveiller que les algorithmes fonctionnent, et ces algorithmes prennent 100 décisions à peu près à la milliseconde, où va-t-on chercher le comportement moral de ces joueurs particuliers ? Il y a des règles du jeu, bien sûr. Mais les joueurs sont plus des humains.
Voilà, quelle morale pour la finance de demain ? C'est la suite de la question que vous vous posez dans ce livre. Quel avenir pour la finance ?
Je crois que les algorithmes sans intelligence, c'est un désastre. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. L'intelligence assistée, ça existe. Donc, premièrement, il faut donc qu'il y ait une intelligence humaine pour que ça marche, y compris pour les algorithmes. Et deuxièmement, l'intelligence sans la morale, ça ne marche pas non plus. Voilà. En gros, c'est ma conclusion, en tous les cas, mon expérience.
Quand passerons-nous à l'acte 3 de la révolution de la finance ?
Écoutez,
au lendemain d'une nouvelle crise ?
Je ne pense que l'acte 2 va durer longtemps. Je pense que l'acte 2 va durer longtemps, parce que je crois que, comme tout à l'heure on l'a évoqué, je pense que la prochaine crise financière, il y en aura une forcément. Elle sera moins, je pense, j'espère, moins dramatique que la précédente. Mais je pense qu'en revanche, la mutation autour de l'Internet et des réseaux sociaux ne fait que commencer.
Merci beaucoup à vous, André Lévy-Lang. La révolution de la finance, acte 2. Votre essai vient de paraître chez Odile Jacob. Merci beaucoup à vous, Aurélie Marciro. Le nouveau magazine littéraire en kiosque cette semaine.
En couverture, quelqu'un en qui on peut avoir confiance.
C'est Montaigne, voilà, le philosophe du bonheur, ici et maintenant. Et la confiance, notre rapport à la confiance. Merci beaucoup à tous les deux et à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez, à Sophie Catherine Gallet et Auriane Delacroix, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus à la réalisation aujourd'hui. C'était Éric Lancien avec Jacques Hubert. Très bel après-midi à tous sur France Culture.